Chapitre 10, le mariage. L'aube au teint pâle et fade se glisse furtivement et toute frissonnante du côté de l'église où repose la poussière du petit Paul, près de celle de sa mère, et regarde dans l'intérieur à travers les vitraux. Il fait froid et sombre dans l'église. La nuit rampe sur les dalles et s'étend noire et pesante dans les angles et dans les coins de l'édifice. Le clocher s'élève au-dessus des maisons. Il sort d'un dôme où l'horloge marque régulièrement les innombrables ondulations du temps qui roule et va se briser sur l'éternel rivage. On le voit à travers la brume, semblable à un phare qui indique au navigateur jusqu'où monte le flot. Mais dans l'intérieur, l'aurore pénètre lentement, la nuit résiste encore. Voltigeant doucement autour de l'église, l'aube jette un triste regard au-dedans. Elle est toute en pleurs et se lamente de la courte durée de son règne. Ses larmes coulent goutte à goutte sur les vitraux. Les arbres qui bordent les murs de l'église, semblant se conformer à ses tristes pensées, penchent languissamment leurs têtes et agitent leurs mille bras. La nuit, pâlissant en sa présence, disparaît insensiblement. Mais elle erre encore au milieu des voûtes souterraines et s'assied sur les cercueils. Bientôt les feux naissants du jour qui éclairent le clocher et rougissent la flèche sèchent les larmes de l'aurore et étouffent ses plaintes. Alors, tout effarée, elle s'attache aux traces de la nuit, la chasse de son dernier refuge, recule elle-même dans les souterrains et va se cacher épouvantée parmi les morts jusqu'à ce que la nuit, encore fraîche du repos qu'elle va prendre, revienne l'en chasser à son tour. Les souris, plus occupé à ranger les livres de prière que le curé à les lire, et à déchirer de leurs petites dents pointues les coussins des prie-dieu, usés par leurs morsures bien plus que par les genoux des fidèles, cachent leurs yeux brillants dans leurs trous et, tout effrayés, se blottissent en entendant résonner la porte de l'église qui s'ouvre et se ferme à chaque instant. C'est que le bedeau, ce haut et puissant fonctionnaire, arrive de bonne heure ce matin avec le sacristain. Madame Miff, la petite loueuse de chaises, dont le nez siffle toujours, se trouve également à son poste. C'est aussi une puissance que Madame Miff. Cette petite vieille sèche, si pincée dans ses vêtements qu'il n'y a pas un pouce d'étoffe de perdu, attendait le bedeau, c'est dans l'ordre, depuis une demi-heure à la porte de l'église. Madame Miff avait une figure rechignée, un chapeau qui en avait vu de dur, et une soif insatiable de pièces de 10 sous, mais encore plus de pièces de 20 sous. L'habitude de faire des signes aux gens égarés dans l'église pour les inviter à entrer dans les bancs de la nef a donné à Madame Miff un air mystérieux. Il y a même dans son œil comme une arrière-pensée douvreuse prudente qui connaît bien quelque part une meilleure place, mais qui la garde pour un fidèle plus généreux. Quant à Monsieur Miff, voilà plus de 20 ans qu'il n'en est plus question, et Madame Miff aime mieux qu'on ne lui en parle pas. Il paraîtrait que c'était un homme qui se permettait d'avoir des idées socialistes sur la gratuité des chaises dans l'église. Aussi, Madame Miff n'oserait pas positivement garantir qu'il soit en paradis. Elle ne fait que l'espérer par esprit de charité. Pendant cette matinée-là, Madame Miff est occupée à la porte de l'église à battre et à épousseter la nappe d'autel, le tapis et les coussins. Et Madame Miff en a bien long à raconter sur le mariage qu'on va célébrer. On a dit à la brave femme que les nouveaux meubles et les changements faits à la maison Tombé coûtaient 125 000 francs et elle tient de bonne main que la dame n'a pas un sou vaillant. Madame Miff se souvient également, comme si c'était hier, des funérailles de la première femme, du baptême et des funérailles de l'enfant. Elle ajoute par parenthèse qu'elle va bien laver, bien savonner la pierre funéraire avant l'arrivée de la société. Monsieur Sounds, le bedeau, est assis au soleil sur les marches de l'église pendant tout ce temps-là. Il fait rarement autre chose, à moins qu'il ne gèle, parce qu'alors il aime mieux rester assis au coin du feu. Il donne son approbation au commérage de Madame Miff et lui demande si elle a entendu dire que la dame était d'une merveilleuse beauté. Les renseignements de Madame Miff sont conformes à ceux de Monsieur Sounds, homme d'église, respectable et orthodoxe dans sa foi, mais gras comme un moine et grand amateur du beau sexe. Aussi fait-il la remarque d'un air de componction que c'est une fameuse gaillarde. L'expression paraît un peu forte à Madame Miff. ou du moins, elle lui paraîtrait un peu forte dans la bouche de tout autre que M. Soames, le bedeau. Chez M. Bombay, à la même heure, il y a grand remue-ménage. Les femmes surtout se trémoussent. Depuis 4 heures, il n'en est pas une qui ait fermé l'œil. Tollinson est, de la part de la bonne, l'objet d'une plus grande considération que d'habitude. Au déjeuner, la cuisinière dit qu'un mariage en fait faire d'autres. La bonne ne croit pas cela. Les proverbes sont bien trompeurs. M. Tollinson ne dit ni oui ni non. Il est mélancolique parce qu'il sait qu'on vient de retenir un étranger qui porte des favoris, Tollinson n'en a pas, pour accompagner le recouple à Paris. En ce moment, il est en train de charger la voiture neuve. À propos de ce personnage, Tollinson déclare que les étrangers n'ont jamais porté bonheur et se défend du reproche d'avoir des préjugés en poussant l'argument suivant. Voyez plutôt Bonaparte tout le premier. De quoi n'était-il pas capable? La bonne trouve que l'observation est très juste. Le pâtissier est dans son coup de feu au milieu de la chambre funèbre de Brook Street et les jeunes laquais sont aussi très occupés à regarder. Un de ces grands gaillards commence déjà à sentir le xérès et ses yeux ont une tendance à rester fixés sur les objets sans les voir. Le grand gaillard a la conscience de son état et dit à son camarade que ce n'est rien. Cela tient à ce qu'il est un peu en guinguette. Mais la langue lui a tourné. Il voulait dire en goguette. Les sonneurs de clochettes ont eu vent du mariage, ainsi que les chapeaux chinois et les cymbales auxquels se sont joints des musiciens ambulants. Les premiers appartiennent à un orchestre de guinguette près de Battle Bridge. Les seconds sont entrés en rapport par l'entremise de leur chef avec Tollinson, auquel ils demandent de l'argent pour ne pas venir. Enfin, les musiciens ambulants rôdent au coin de la rue et par l'organe d'un rusé trombone, ils s'adressent à un marchand et lui promettent une récompense s'il veut bien leur révéler le lieu et l'heure du déjeuner. L'impatience et l'agitation gagnent bien plus loin. De Ball Pond, M. Perch amène Mme Perch pour passer la journée avec les domestiques de M. Dombey et les accompagner, en tapinois, au mariage. Si nous nous transportons au logement de M. Toots, nous le voyons tirer à 4 épingles, comme s'il était le marié pour le moins. Il est fermement résolu à contempler le brillant spectacle d'un coin obscur de la galerie et à y conduire Cocardi. Il a même pris le parti désespéré de montrer Florence à Cocardi et de lui dire sans détour « Tenez, mon coq, je veux pas vous tromper plus longtemps. L'ami dont je vous ai quelquefois parlé, c'est moi. L'objet de ma passion, c'est Mademoiselle Tombay. Quelle est votre opinion à cet égard? Et que me conseillez-vous sur le champ ?» Cocardi, avant cette épreuve qui va le faire tomber de son haut, plonge son bec dans un pot de bière double dans la cuisine de M. Toots et engloutit 2 livres de filet de bœuf. Sur la place de la princesse, Miss Tox est aussi dans tous ses états, car malgré le cruel chagrin qui la dévore, elle a pris le ferme parti de mettre un shilling dans les mains de Madame Miff et de voir la cérémonie, qui a pour elle un intérêt douloureux, de quelques coins retirés de l'église. Le quartier du petit aspirant marine est aussi en émoi, car le capitaine Cuttle, avec ses brodequins lacés et son énorme col de chemise, est en train de déjeuner, prêtant l'oreille à la voix de Robin le rémouleur, qui lui lit d'avance, avec docilité, la messe de mariage d'un bout à l'autre. Le capitaine tient à comprendre parfaitement la solennité à laquelle il doit assister. Dans ce but, il interrompt gravement son chapelain de temps à autre, suivant qu'il a compris ou non. « Passons, dit-il, ou bien répétez cet article. Ou bien encore, bornez-vous à votre office et laissez-moi les amènes. » Et quand Robin, haletant, s'arrête pour souffler, le capitaine de pousser avec satisfaction un vigoureux « Amen ». 20 bonnes d'enfants, dans la rue de M. Dombey seulement, ont promis à 20 petites femmes en herbe, qui depuis leur berceau rêvent mariage, de les conduire à la cérémonie. Vraiment, M. Soames, le bedeau, a de bonnes raisons pour se pavaner dans l'exercice de ses hautes fonctions, chauffant au soleil sa majestueuse figure sur les marches de l'église en attendant l'heure du mariage. Et Madame Miff, comme elle fait bien de vous flanquer à la porte un bout de femme, qui vient avec un grand dada d'enfant dans ses bras regarder à la porte. Le cousin Phoenix est revenu de l'étranger tout exprès pour assister au mariage. Le cousin Phoenix était un gaillard dans son temps, il n'y a pas plus d'une quarantaine d'années. Mais d'ailleurs, il est si bien conservé, il se tient si droit qu'on est surpris d'apercevoir des rides cachées sur la figure de sa seigneurie et des pattes d'oie de chaque côté de ses yeux. On s'étonne qu'il ne traverse pas la chambre d'un pas bien assuré et qu'il aille toujours à côté de l'endroit où il veut se diriger. Mais le cousin Phoenix, quand il se lève à 7h30 du matin, ne ressemble guère au cousin Phoenix quand il est levé et habillé. En ce moment, par exemple, il fait triste figure entre les mains de son barbier qu'il rase à Long Hotel dans Bond Street. M. Dombey quitte son cabinet de toilette et traverse une armée de femmes sur l'escalier qui se dispersent dans toutes les directions en faisant retentir le frôlement de leurs robes. Madame Perch, seule, étant dans une situation intéressante, ce qui lui arrive perpétuellement, ne manœuvre pas si facilement. Elle se rencontre nez à nez avec M. Dombey et manque de se trouver mal de honte en lui faisant la révérence. Dieu veuille que cet accident n'amène pas de suite douloureuse pour la maison Perch. M. Dombey se promène dans son salon en attendant l'heure. Il est resplendissant avec son habit bleu, son pantalon ventre de biche et son gilet lilas. Le bruit même circule dans la maison que M. Dombey s'est fait friser. Un double coup frappé à la porte annonce l'arrivée du major, resplendissant aussi et portant un géranium tout entier à sa boutonnière. Il a les cheveux bien frisés, bien crépus. Son aigre n'est pas manchot. « Eh bien, Dombey, dit le major en lui tendant les deux mains, comment vous portez-vous ? Et vous, major, comment cela va-t-il ? Par Jupiter, monsieur, dit le major, un jour comme celui-ci, là-dessus il se frappe violemment la poitrine, un jour comme celui-ci, Joe se sent de force, le diable m'emporte, à faire deux mariages au lieu d'un, et à prendre la mère pour lui, monsieur. » M. Dombey sourit, mais d'un sourire glacial, car M. Dombey sent qu'il va devenir le gendre de la mère. Il ne peut donc admettre qu'on parle d'elle d'un air si dégagé. « Dombey, dit le major qui lit son embarras dans ses yeux, je vous félicite. Je vous congratule, Dombey. Pardieu, monsieur, vous êtes le mortel le plus heureux de toute l'Angleterre. » M. Dombey, ici encore, paraît être très médiocrement de son avis, car en épousant cette dame, il lui fait le plus grand honneur, et s'il y a quelqu'un de très heureux, c'est assurément elle qui doit l'être. « Quant à Edith Granger, monsieur, continue le major, il n'y a pas une femme dans toute l'Europe qui ne se sentit honorée et même, permettez à Backstock d'ajouter, et même charmée de donner ses oreilles avec leurs boucles d'oreilles par-dessus le marché pour être à la place d'Edith Granger. « Cela vous plaît à dire, major, dit M. Dombey. Dombey, vous le savez bien, mettons de côté toute fausse modestie. Vous le savez aussi bien que moi. Voyons, le savez-vous ou ne le savez-vous pas ? Dit le major qui commençait à s'enflammer. Vraiment, major, je... Sacrebleu, monsieur, reprend le major. Le savez-vous, oui ou non ? Dombey, le vieux Joe est-il votre ami ? Sommes-nous sur un pied d'intimité sans réserve qui puisse justifier un homme comme le vieux Joseph B., monsieur, de dire franchement sa façon de penser, ou bien faut-il nous tenir sur le décorum, Dombey, garder ma distance et prendre des gants pour vous parler ? Mon cher major Backstock, dit M. Dombey d'un air satisfait, comme vous vous échauffez. Pardieu, oui, monsieur, je m'échauffe. Joseph B. ne va pas à l'encontre, Dombey. Il s'échauffe. Nous sommes dans des circonstances, monsieur, qui sont bien de nature à faire jaillir tout ce qu'il reste encore de franche et loyale sympathie dans la vieille et infernale carcasse de ce pauvre invalide de J.B. Que je vous dise, Dombey, en pareille occasion, il faut qu'un homme exprime tout ce qu'il ressent ou qu'on le muselle. Eh bien, Joseph Backstock vous dira en face, Dombey, comme il le dira derrière vous à son club, qu'il ne se laissera jamais museler tant qu'il s'agira de Paul Dombey. Eh bien, sacrebleu, monsieur, que dites-vous de cela maintenant ? Et en parlant ainsi, le major avait un air déterminé. Major, dit M. Dombey, je vous assure que je vous suis réellement obligé. Je n'avais pas le moins du monde la pensée de vous faire un crime de votre amitié par trop partiale. Non, sacrebleu, non, monsieur, elle n'est pas trop partiale, Dombey. Je maintiens que non, s'écria le bouillant major. Eh bien, soit. Je dirai donc pour votre amitié, tout simplement. Je ne puis pas oublier, major, dans une circonstance comme celle-ci, tout ce que je dois à votre amitié. Dombey, dit le major en tendant sa main, voici la main de Joseph Bagstock, du franc Joe Bay, monsieur, si vous aimez mieux. Voici une main dont son Altesse royale, le feu duc d'York, m'a fait l'insigne honneur de dire, en parlant à son Altesse royale le feu duc de Kent, que c'était la main de Josh, solide et fin gaillard, un vieux coquin fini. Puisse, mon cher Dombey, le jour d'aujourd'hui être le plus heureux de notre vie. Que le ciel vous bénisse. En ce moment, entre M. Carker, tout resplendissant aussi, et souriant en véritable invité de la noce. C'est à peine s'il peut consentir à laisser échapper de sa main celle de M. Dombey, tant il a de compliments à lui faire. Et en même temps, il secoue la main du major si cordialement que sa voix, en sortant de ses dents, tremble comme ses bras. Ce jour est de bon augure, dit M. Carker. Il n'y en a jamais eu de plus gai ni de plus brillant. J'espère que je ne suis pas en retard d'une minute. Exactitude militaire, monsieur, dit le major. Ah, j'en suis bien aise, dit M. Carker. J'ai eu peur un instant d'arriver quelques secondes après l'heure, car j'ai été retardé par une file de voitures qui n'en finissait plus. J'ai pris la liberté de passer à Brook Street, ceci était à l'adresse de M. Dombey, et d'y laisser quelques pauvres petites fleurs d'une espèce rare pour Mme Dombey. Un homme dans ma position, assez privilégié pour être admis ici au nombre des invités, est fier de mettre à vos pieds quelques témoignages de son humble dévouement, et quoiqu'il ne soit pas douteux pour moi que Mme Dombey soit accablée de riches et magnifiques cadeaux, en disant cela il lança un étrange regard à son protecteur, j'espère que mon pauvre présent trouvera grâce auprès d'elle. Madame Dombey, reprend M. Dombey d'un air satisfait, sera sensible à votre marque d'attention, j'en suis sûr, Carker. Si elle doit devenir Madame Dombey aujourd'hui, monsieur, dit le major en posant sur la table sa tasse de café et en regardant à sa montre, il est grandement temps que nous partions. En conséquence, M. Dombey, le major Bagstock et M. Carker montent en calèche pour se rendre à l'église. Le bedeau, M. Sounds, n'est plus assis depuis longtemps sur les marches de l'église. Il attend, debout, son tricorne à la main. Madame Miff, toujours faisant la révérence, propose des chaises dans la sacristie. M. Dombey préfère attendre dans l'église. Au moment où il lève les yeux dans la direction de l'orgue, Miss Tox, qui est dans la galerie, se dissimule derrière le mollet d'un chérubin qui a des joues bouffies comme un jeune zéphyr. Le capitaine Cattle, au contraire, est debout, agitant son croc comme pour le féliciter et saluer sa bienvenue. M. Toots se met la main sur la bouche et apprend avec un air de mystère à Cocardy que le monsieur du milieu, qu'il voit en pantalon ventre de biche, est le père de son ange. Cocardy, de sa grosse voix, lui répond à l'oreille qu'il n'a jamais vu de Pékin si roide que ça, mais que, grâce aux ressources de son art, il vous le plierait en deux bel et bien d'un bon coup de poing dans le creux de l'estomac. M. Sounds et Mme Miff, qui ne sont pas loin, regardent M. Dombey, mais on entend un bruit de roues qui approche. Mme Miff, rencontrant le regard de M. Dombey, au moment où il le détourne de l'innocent et trop présomptueux Toots, qui le salue si poliment de la galerie, fait une référence et l'informe qu'elle croit sa chère dame arrivée. Alors on entend un grand bruit à la porte et la chère dame fait son entrée de son air le plus hautain. Sur son visage, on ne voit aucune trace des souffrances de la nuit précédente. Vous ne diriez plus que c'est la même femme qui a plié les genoux et qui a reposé, dans un mouvement de magnifique abandon, sa tête égarée sur le paisible oreiller de la jeune fille endormie. Cette jeune fille, si gracieuse et si aimable, est à ses côtés, contrastant fortement avec cette physionomie où se lit un fier dédain et avec cette attitude droite et réservée d'une femme qui ne veut pas laisser deviner ses pensées. Edith est là, dans toute sa splendeur et la majesté de ses charmes, mais pleine de mépris pour l'admiration qu'elle inspire et qu'elle foule aux pieds. On s'arrête. M. Sounds, le bedeau, se glisse dans la sacristie pour aller chercher le ministre et son desservant. En ce moment, Mme Stewton s'adresse à M. Dombey. Elle parle avec plus de clarté et d'emphase que d'habitude, et en même temps elle s'approche d'Edith. « Mon cher Dombey, dit la tendre maman, je crains bien d'être obligée de renoncer à Florence et de la laisser retourner chez elle, comme elle en a elle-même l'intention. Après la perte que je fais aujourd'hui, mon cher Dombey, je sens que je n'aurai pas même le courage de lui tenir compagnie. Ne ferait-elle pas mieux de rester avec vous ? Réplique le marié. Je ne le crois pas, mon cher Dombey. Non, je ne le crois pas. Je serai mieux seul. D'autant plus que ma bonne Edith sera, à son retour, sa protectrice naturelle et constante. Je ferai mieux de ne pas empiéter sur ses droits. Elle pourrait en être jalouse, n'est-ce pas, bonne Edith ? La tendre mère, en disant cela, serre le bras de sa fille, pour attirer son attention, peut-être. « Sérieusement, mon cher Dombey, reprend-elle, je me séparerai de cette chère enfant pour ne pas la faire souffrir de ma tristesse. Nous venons de convenir de cela tout à l'heure. Elle comprend mes raisons parfaitement, mon cher Dombey. Edith, ma bonne, n'est-ce pas qu'elle comprend parfaitement ?» La bonne mère presse encore le bras de sa fille. Monsieur Dombey n'ajoute aucune observation. D'ailleurs, voici le ministre et son desservant. Madame Miff et le bedeau, Monsieur Soames, conduisent les futurs conjoints à leur place devant l'autel. Qui donne la main de cette femme à cet homme ? C'est le cousin Phoenix qui la donne. Il arrive de Baden-Baden tout exprès pour cela. Que diable ! Quand il entre dans la famille un riche personnage, c'est bien le moins qu'on lui témoigne quelque déférence. Il faut faire quelque chose pour lui. C'est ce que disait le cousin Phoenix. C'est un bon enfant, le cousin Phoenix. Il répond donc « C'est moi qui donne la main de cette femme à cet homme. » Le cousin Phoenix, qui se figurait aller en droite ligne du côté de la mariée, tandis que ses jambes obstinées le faisaient aller de côté, donne tout de travers à cet homme la main de cette femme. C'est-à-dire qu'il va prendre une demoiselle d'honneur de qualité, alliée de loin à la famille, et de l'âge de Madame Skewton à 10 ans près. Mais le chapeau de Madame Miff intervient, fait tourner notre cousin comme sur un pivot et le pousse droit vers la chère dame que le cousin Phoenix donne par conséquent à cet homme. Déclare-t-il à la face du ciel ? Oui, il déclare à la face du ciel. Monsieur Dombey le déclare. Et Edith ? Edith le déclare aussi. Ainsi, à partir de ce jour, ils se jurent fidélité. Ils sont unis pour vivre ensemble pour le bien comme pour le mal. Dans la richesse comme dans la pauvreté, qu'ils soient malades ou bien portants, et devront s'aimer et se chérir jusqu'à ce que la mort vienne les séparer. D'une main ferme et dégagée, la mariée signe le registre quand on est revenu à la sacristie. Je n'ai pas encore vu beaucoup de dames venir ici et écrire leur nom comme cette bonne dame, dit Madame Miff en faisant la révérence, et quand elle fait la révérence, son chapeau menace de faire le plongeon. Le bedeau, M. Soames, pense que c'est une fameuse gaillarde de signature, bien digne de son auteur. Mais cette opinion, il la garde pour lui, bien entendu. Florence signe aussi, mais elle n'obtient pas le même succès, car sa main tremble. Tout le monde signe. Le cousin Phoenix signe le dernier, se trompe de feuillet en signant, et s'inscrivant sur la page des naissances, il certifie qu'il est né ce jour-là. Alors le major s'avance, embrasse la mariée et profite de la circonstance pour donner à toutes ces dames un échantillon de la galanterie militaire. Même à Madame Skewton, très difficile à embrasser par parenthèse et dont les cris perçants ébranlent l'édifice. Le cousin Phoenix et même M. Dombey sont entraînés par l'exemple. Enfin M. Carker, avec ses dents toutes brillantes de blancheur, s'approche d'Edith. On dirait qu'il songe à la mordre plutôt qu'accueillir sur ses lèvres un délicieux baiser. La joue empourprée d'Edith, ses yeux étincelants, semble l'inviter à se tenir à distance. Mais rien ne l'arrête. Il l'embrasse comme tout le monde et lui souhaite toutes sortes de bonheur. Si, ajouta-t-il à voix basse, il n'est pas superflu de former des souhaits pour une telle union. Je vous remercie, monsieur, répond-elle en plissant la lèvre et la poitrine oppressée. Edith sentirait-elle par hasard, comme le soir où elle savait que M. Dombey lui offrirait sa main, que Carker la connaît parfaitement, et lit dans son cœur à livre ouvert ? se trouve-t-elle plus dégradée à ses propres yeux d'être connue de M. Carker que de tout autre? Est-ce pour cela qu'en présence du sourire de cet homme, sa fierté diminue à vue d'œil, comme la neige fond dans la main qui la presse? Est-ce pour cela que son regard impérieux se détourne du sien et se baisse vers la terre? « Je suis fier de voir, » dit M. Carker, s'inclinant avec humilité, et cependant ses yeux et ses dents démentent ses paroles, « Je suis fier de voir que mon humble présent a été accueilli par Mme Dombey, qui a bien voulu le porter dans ce jour si fortuné. » Edith s'incline. Mais, à la voir, on croirait un moment que sa main veut froisser les fleurs qu'elle tient, les jeter à terre et les fouler avec mépris. Cependant, elle passe son bras au bras de son mari, qui causait avec le major, et recouvre son air fier, impassible et silencieux. Les voitures sont encore une fois à la porte de l'église. M. Dombey, sa femme au bras, passe au milieu des 20 petites femmes en herbe, groupées sur les marches. Chacune remarquant la façon, la couleur de chaque partie du vêtement de la mariée, se promet d'habiller de la même façon sa poupée qu'elle s'occupe à marier toute la journée. Cléopâtre et le cousin Phoenix montent dans la même voiture. Le major conduit dans la seconde Florence et la demoiselle d'honneur, qui avait failli devenir Madame Dombey par méprise. Il entre lui-même avec elle, suivi de M. Carker. Les chevaux piaffent et se cabrent. Les cochers et les valets de pied brillent sous les rubans, sous les fleurs et sous leurs livrées toutes neuves. Les voitures partent au grand galop, traversent rapidement les rues, et, sur leur passage, mille têtes les regardent et mille moralistes austères se vengent de leur célibat en se disant que tous ces badauds ne songent pas à la courte durée d'un pareil bonheur. Miss Tox quitte le mollet du chérubin quand le calme s'est rétabli dans l'église et descend lentement de sa galerie. Elle a les yeux rouges. Son mouchoir est trempé. Blessée jusqu'au fond du cœur, elle n'éprouve aucun sentiment de colère. Elle espère qu'ils seront heureux. Elle ne se refuse pas à s'avouer à elle-même que la mariée est belle et que, comparativement, les charmes qu'elle pourrait mettre en concurrence sont faibles et légèrement flétris. Mais l'image imposante de M. Dombey avec son gilet lilas, son pantalon ventre de biche, se représente à son esprit, et Miss Tox, derrière son voile, pleure de nouveau en regagnant son domicile de la place de la princesse. Le capitaine Cattle, qui s'est associé à la cérémonie en disant « Amen » et en chantant pieusement les réponses avec sa grosse voix, se sent tout sanctifié après ses exercices religieux. Dans un état de béatitude parfaite, il traverse la nef, son chapeau de toile ciré à la main, et lit la plaque mortuaire gravée en souvenir du petit Paul. Le galant M. Toots, accompagné du fidèle Cocardi, quitte l'édifice en proie aux tourments de l'amour. Cocardi, jusqu'ici, est incapable d'imaginer un stratagème pour faire donner à Toots la main de Florence. Mais il tient à sa première idée. Elle songe que si l'on pliait en deux M. Dombey d'un coup de poing, ce serait déjà quelque chose. Les domestiques de M. Dombey sortent de la retraite où ils s'étaient cachés pour assister à la cérémonie et se disposent à s'élancer dans la direction de Brook Street quand tout à coup une indisposition de Mme Perch les arrête dans leur élan. Mme Perch demande un verre d'eau, son état devient alarmant. Mais bientôt elle se trouve mieux, on l'emporte. Cependant Mme Miff et le bedeau, M. Sounds, s'asseyent sur les marches pour calculer ce que la cérémonie leur a rapporté et se mettent à jaser pendant que le sacristain sonne pour un mort. Pourquoi M. Carker, en traversant la foule, pense-t-il à la vieille femme qui lui a parlé un matin dans le bois? Pourquoi Florence pense-t-elle, en frissonnant, au jour où, tout enfant, elle était perdue? Pourquoi revoit-elle la figure de la bonne Madame Brown? Les félicitations à l'occasion de ce jour, le plus heureux jour de la vie, se renouvellent à mesure qu'il entre plus de monde. Il est vrai que la société n'est pas nombreuse. On quitte le salon pour aller se mettre à table dans la sombre salle à manger qu'aucun vatel au monde ne peut se flatter d'égayer. Et le restaurateur a beau faire et garnir les nègres étiquettes de fleurs et de nœuds d'amour, il ne changera pas le triste aspect de la salle. Le pâtissier s'est distingué. Le déjeuner est splendide. Monsieur et Madame Chick sont venus se joindre à la société. Madame Chick s'étonne de voir combien Edith, par sa nature, est déjà une dombée accomplie, et elle se montre affable et confiante à l'égard de Madame Skewton, dont l'esprit se sent soulagé d'un grand poids et qui ne laisse pas aux ordres sa part de champagne. Le grand laquais, qui s'est mis trop en goguette le matin, éprouve depuis comme un vague sentiment de repentir. Il déteste l'autre laquais, lui arrache violemment les plats, se fait un malin plaisir de contrarier la société. Les convives sont calmes et froids. On peut dire qu'ils n'insultent pas aux tristes peintures pendues à la muraille par des excès de folle gaieté. Le cousin Phoenix et le major sont les plus en train. Mais M. Carker a un sourire qui sert pour toute la table. Il a aussi un sourire tout particulier pour la mariée. Mais c'est un sourire qui n'a que rarement, très rarement, le bonheur de rencontrer le regard d'Edith. Lorsque le déjeuner est terminé et que les domestiques ont quitté l'appartement, le cousin Phoenix se lève. Il a l'air singulièrement jeune, avec ses manchettes blanches qui lui couvrent presque les mains. Il fait bien car elles sont toutes décharnées. Et avec ses pommettes, que le champagne a rendu vermeil. Le cousin Phoenix prend la parole et s'exprime en ces termes. « Sur mon honneur, quoique ce que je vais faire puisse paraître singulier au premier abord dans une maison particulière, je demanderai la permission de vous inviter à porter ce que généralement on appelle un toast. » Le major, de sa voix enrouée, déclare qu'il appuie la motion. Monsieur Carker, avec un salut à l'adresse du cousin Phoenix, sourit et donne plusieurs fois des signes non équivoques de son assentiment. Je disais donc que nous allions porter un, quoique réellement ce ne soit pas un. Le cousin Phoenix, qui s'est repris plusieurs fois pour achever sa phrase, reste en chemin. Le major profite de ce moment de silence de l'orateur pour dire du ton d'un homme convaincu « Écoutez, écoutez !» Monsieur Carker bat légèrement sa main gauche de l'extrémité de sa main droite, salue de nouveau, sourit, donne des signes non moins équivoques de son assentiment, comme si l'observation du major l'avait vivement frappé et comme s'il tenait à exprimer tout le plaisir qu'il en éprouve. Le cousin Phoenix continue. « Enfin, c'est une circonstance toute particulière où nous pouvons, sans inconvenance, nous départir un peu des usages ordinaires de la vie, et quoique je n'ai jamais été orateur, et que lorsque j'étais à la Chambre des communes, pour avoir eu l'honneur d'appuyer le projet d'adresse, j'ai été alité pendant 15 jours par la crainte que j'avais de rester au-dessous de la circonstance. » Le major et M. Carker parurent si charmés de ce détail biographique de la vie du cousin Phoenix que celui-ci se mit à rire, et s'adressant à eux particulièrement, il continua « Enfin, malgré ma diable de maladie, je sentis, vous le pensez bien, qu'un devoir sérieux m'incombait. Et quand un devoir sérieux incombe à un Anglais, il doit s'en acquitter, selon moi, de son mieux. Eh bien, notre famille a eu la satisfaction aujourd'hui de s'allier dans la personne de mon affectionnée cousine, personne accomplie, ici présente. Applaudissements général. Présente, répète le cousin Phoenix, sentant que c'était un mot qui valait la peine d'être répété. A eu, dis-je, la satisfaction de s'allier avec un, oui, je puis vous le dire, avec un homme que le mépris ne pourra jamais, avec, je puis le dire enfin, avec mon honorable ami Dombey, s'il veut bien me permettre de l'appeler ainsi. » Sur ce, le cousin Phoenix salue M. Dombey, et M. Dombey lui rend majestueusement son salut. Chacun est plus ou moins satisfait et ému de cet appel chaleureux et nouveau à la sensibilité de l'auditoire. « Je n'ai pas pu, continue le cousin Phoenix, trouver, autant que je l'aurais voulu, l'occasion de cultiver la connaissance de mon ami Dombey et d'étudier ses qualités qui font tant d'honneur à un esprit et enfin, je puis le dire, à son cœur. Car, malheureusement pour moi, j'étais, comme nous avions coutume de dire dans mon temps à la Chambre des communes, à une époque où l'on n'avait pas pris l'habitude de faire allusion à la Chambre des lords, et où les procédés parlementaires étaient peut-être mieux observés que maintenant. Malheureusement pour moi, j'étais... Enfin, dit le cousin Phoenix, se complaisant dans sa plaisanterie qu'il débite d'un ton goguenard, j'étais, s'écrit-il, dans un beau mouvement, j'étais dans un autre endroit. Le major tombe en convulsion et se remet avec peine. « Mais j'en sais assez sur mon ami Dombey, continue le cousin Phoenix, d'un ton plus grave, comme si tout à coup il était devenu un philosophe austère. « J'en sais assez pour savoir enfin, qu'il est ce qu'on peut appeler dans toute la force du terme un négociant, un vrai négociant anglais et un homme, enfin. Quoique j'ai séjourné à l'étranger pendant quelques années, et à ce propos, j'aurais eu grand plaisir de recevoir mon ami Dombey, ainsi que toutes les personnes ici réunies, à Baden-Baden, et de rencontrer l'heureuse occasion de les présenter au grand-duc, je me flatte d'en savoir encore assez sur mon affectionnée cousine, personne accomplie, pour lui rendre la justice qu'elle possède toutes les conditions qui peuvent rendre un homme heureux, et que son mariage avec mon ami Dombey est, d'un côté comme de l'autre, un mariage d'inclination. » M. Carker sourit beaucoup et donne de nombreuses marques de son assentiment. « Aussi, dit le cousin Phoenix, je félicite la famille à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir de l'acquisition qu'elle vient de faire dans la personne de mon ami M. Dombey. Je félicite M. Dombey de son union avec mon affectionnée cousine, personne accomplie qui réunit toutes les conditions pour rendre un homme heureux. Et je prends la liberté de vous inviter tous à féliciter en cette circonstance et mon ami Dombey et mon affectionnée cousine, personne accomplie. » Le speech du cousin Phoenix est accueilli par de grands applaudissements, et M. Dombey lui adresse des remerciements pour lui et pour Mme Dombey. J.B., peu de temps après, propose un toast à la santé de Mme Stewton. Une fois ces toasts portés, le déjeuner languit. Les noires armoiries reprennent leur revanche de l'outrage qu'on vient de faire à leur gravité, et Edith se lève pour prendre ses vêtements de voyage. Cependant, tous les domestiques ont eu, eux aussi, leur déjeuner en bas. Le champagne, on n'en parle plus. Les volailles rôties, les pièces montées, des salades de homard, ils en sont rassasiés. Le jeune laquais s'est remis en gaieté. Il fait de nouveau allusion à la guinguette. L'œil de son camarade commence à rivaliser avec le sien. Lui aussi commence à regarder fixement les objets, sans parvenir à en prendre une connaissance distincte. Les figures des dames sont généralement vermeilles. Sous le rapport de la couleur, on remarque particulièrement celle de Madame Punch, qui est joyeuse et rayonnante. Elle est si loin maintenant des choses de ce monde que si on lui demandait le chemin de Balls Pond, où elle habite, elle aurait peine à se rappeler la route. M. Tomlinson a proposé un toast à l'heureux couple. Le sommelier aux cheveux blancs y a répondu d'une manière simple et profondément sentie, car il commence sérieusement à se croire un peu un ancien serviteur de la famille, et par suite obligé de prendre sa part des émotions domestiques. Toute la société, et surtout le beau sexe, devient tout à fait folichonne. La cuisinière de M. Dombey, le bout en train de toutes les réunions, déclare qu'après ce régal, il est impossible d'en rester là. Pourquoi n'irait-on pas en masse au spectacle? Tout le monde, y compris Mme Perch, est de cet avis. Jusqu'au nègre, qui a le vin féroce comme un tigre, et qui fait peur aux dames, particulièrement à Mme Perch, par le roulement de ses yeux. L'un des deux laquais a même proposé un bal après le spectacle. Et personne, pas même Mme Perch, n'y fait l'ombre d'une objection. Il y a eu quelques mots échangés entre la servante et Tomlinson. Elle, sur la foi d'un vieux dicton, affirme que les mariages se font dans le ciel. Lui prétend que la manufacture est ailleurs. Il suppose qu'elle parle ainsi parce qu'elle voudrait bien se marier à son idée. À quoi elle répond qu'elle ne songe toujours pas, Dieu merci, à se marier avec lui. Pour mettre fin à ces discussions, le sommelier aux cheveux blancs se lève et propose la santé de Tomlinson. « Le connaître, dit-il, c'est l'estimer. C'est lui souhaiter un bon établissement avec l'objet de son choix, en quelque lieu que cet objet puisse se trouver. » Ce disant, le sommelier lance un coup d'œil à la bonne. Tomlinson adresse au préopinant des remerciements dans un discours vivement senti, dont la péroraison est dirigée contre les étrangers. « Sans doute, dit-il, les étrangers, pour des gens faibles et inconstants, qui se laissent conduire par le bout du nez, peuvent avoir un moment de vogue. Mais, Dieu merci, messieurs les étrangers, bon voyage. J'espère bien n'entendre plus parler de vous de ma vie. » Le regard de Tomlinson, en prononçant ces mots, est si sévère et si expressif que la bonne est sur le point de se trouver mal. lorsque par bonheur elle apprend, ainsi que toute la société, que la mariée s'en va. Tous se précipitent alors pour assister à son départ. La voiture est à la porte. La mariée descend dans le vestibule où l'attend M. Dombey. Florence est aussi sur l'escalier, prête à partir. Et Miss Nipper, qui se trouve entre la salle à manger et la cuisine, se prépare à l'accompagner. Au moment où Edith paraît, Florence se précipite vers elle pour lui dire adieu. Edith a-t-elle froid ? Elle tremble. Y a-t-il dans le baiser de Florence, qui l'embrasse, quelque puissance magique qui fait frissonner et reculer cette fière beauté comme si elle ne pouvait supporter cette épreuve ? Elle est donc bien pressée, Edith, car à peine a-t-elle agité sa main en signe d'adieu que la voilà déjà partie. Madame Stewton, en sa qualité de mère, ne peut maîtriser son émotion. Elle se laisse tomber sur son sofa, toujours comme Cléopâtre, lorsque le bruit des roues de la voiture s'est perdu dans le lointain, et elle répand quelques larmes. Le major, se levant de table avec les autres, essaye de la consoler. Mais elle ne veut pas entendre parler de consolation. Aussi le major prend-il congé. Le cousin Phoenix et M. Carker en font autant. Tous les convives s'en vont. Cléopâtre, restée seule, se sent légèrement étourdie par suite de la violence de son émotion et s'endort. En bas, dans les régions culinaires, on n'est pas moins agité. Le jeune laquais, qui s'est mis en goguette de si bonne heure, a la tête collée sur la table dans l'office et ne peut plus l'en détacher. Une violente réaction s'est opérée dans l'état de Madame Pudge. Elle paraît abattue. M. Pudge en est la cause. Elle craint, dit-elle à la cuisinière, que son mari ne soit plus aussi attaché à son intérieur que lorsqu'il n'était que neuf dans la famille. Tollinson a une musique continuelle dans les oreilles et une grande roue qui tourne, tourne, tourne sans fin dans sa tête. La bonne voudrait que ce ne fût pas un péché de désirer la mort. Il se passe encore un autre phénomène en bas, dans les régions culinaires. On a perdu toute idée du temps. L'illusion leur fait croire qu'il est au moins 10 heures du soir, tandis qu'il n'est pas encore 3 heures de l'après-midi. Il règne dans la société comme un sentiment vague de quelques méfaits. On s'en croit réciproquement complices. On se fuit, on s'évite l'un l'autre. Personne, ni homme ni femme, n'ose parler d'aller au spectacle. Quant au bal, il n'en est plus question. Ce serait s'exposer à être traité d'imbécile. Madame Stewton dort encore en haut, 2 heures après, comme on a fait à la cuisine. Les armoiries de la salle à manger n'ont plus pour tout spectacle que des miettes de pain, des assiettes sales, des taches de vin sur la nappe, de la glace à moitié fondue, des restes de fromage informes, des morceaux de homard, des cuisses de volaille, des gelées qui ne peuvent plus se soutenir et se fondent en sirop. Le mariage même, en ce moment, est comme le déjeuner dépouillé de tous ses ornements. Les domestiques de M. Dombey résonnent à perte de vue sur l'événement, si bien qu'au moment du thé, à 8 heures ou à peu près, ils en sont devenus tout moroses. M. Pudge, qui arrive en ce moment de la cité, dispo et jovial, avec un gilet blanc, fredonnant sa chanson à boire, tout prêt à bien passer la soirée et à se donner du plaisir, est tout étonné de voir qu'il est froidement accueilli, que Mme Pudge est mal à son aise, et qu'en fait de plaisir, il ne reste plus que celui d'escorter sa femme à l'omnibus pour rentrer avec elle. Il fait nuit sombre. Florence, qui a erré dans la belle maison de pièce en pièce, cherche sa chambre dans laquelle Edith a rassemblé tout le luxe et le confort possible. Elle se dépouille de ses beaux vêtements pour reprendre la simple robe de deuil qu'elle portait depuis longtemps en souvenir de son cher Paul. Elle s'assied pour lire, tandis que Diogène, étendu sur le parquet à côté d'elle, s'amuse à cligner de l'œil. Mais Florence ne peut pas lire aujourd'hui. Il y a pour elle quelque chose d'étrange dans cette maison, qui n'est plus l'ancienne maison d'Ombay, à la voir si animée et si retentissante. Son cœur s'assombrit. Elle ne sait ni comment ni pourquoi, mais elle a le cœur gros. Florence ferme son livre, et ce lourdeau de Diogène, qui prend cela pour un signal, pose ses pattes sur les genoux de sa maîtresse et se frotte les oreilles contre les douces mains de la jeune fille. Mais au bout de quelque temps de torpeur, la pauvre Florence ne le distingue plus bien. Un brouillard la sépare de son chien, et dans ce brouillard, elle voit lui apparaître, brillant comme des anges, son frère et sa mère, qui ne sont plus. Walter aussi, le pauvre exilé, naufragé peut-être. Ah, où donc peut-il être ? Le major n'en sait certainement rien, et d'ailleurs cela ne l'inquiète guère. Le major, qui a étouffé et dormi toute l'après-midi, va dîner tard à son club. Il s'assied, le nez sur sa carafe de madère, et entreprend un modeste jeune homme à la figure rubiconde, assis à une table voisine, qui voudrait bien se lever pour s'en aller, mais en vain, il est cloué sur sa chaise. Le major lui désopile la rate par une foule d'anecdotes dont lui, Buckstock, monsieur, a été le héros au mariage de monsieur Dombey. Et il lui en raconte de belles sur le cousin Phoenix, un ami diablement comme il faut du vieux Joe. Pendant ce temps-là, le cousin Phoenix, qui devrait être à l'hôtel et dans son lit, se trouve à une table de jeu où l'on conduit, bien malgré lui probablement, ses jambes obstinées. La nuit, comme un géant, descend dans l'église qu'elle remplit depuis les dalles jusqu'aux fêtes. Elle y règne pendant de longues heures silencieuses. La pâle aurore revient encore une fois regarder à travers les vitraux. Puis, laissant la place au jour, elle voit la nuit se réfugier sous les voûtes, la suit, la chasse du séjour souterrain et se cache parmi les morts. Les timides souris se blottissent les unes contre les autres quand elles entendent claquer les grandes portes. Monsieur Sounds et Madame Miff reprennent leurs occupations journalières, dans lesquelles il n'y a pas plus de solution de continuité que dans un anneau de mariage. Les voilà encore qui entrent dans l'édifice. De rechef, le chapeau à trois cornes et le chapeau de Madame Miff se laissent apercevoir au fond de la nef à l'heure de la célébration des mariages. De rechef, aussi cet homme prend cette femme, et cette femme prend cet homme, avec la solennelle formule. À partir de ce jour, ils seront unis pour vivre ensemble, pour le bien comme pour le mal, dans la richesse comme dans la pauvreté, qu'ils soient malades ou bien portants, ils devront s'aimer et se chérir jusqu'à ce que la mort vienne les séparer. Telles sont les paroles que M. Carker se répète à lui-même en faisant à cheval son entrée dans la ville, la bouche fendue jusqu'aux deux oreilles, et dirigeant sa monture avec délicatesse par les rues les plus propres.